Bonne fête des mères. Oui. Heureux de voir plusieurs mamans. Et heureux de voir beaucoup d'enfants de mamans. Je pense que c'est 100%. Tout le monde est l'enfant d'une maman. Et aujourd'hui, on va parler d'un texte de l'Évangile où le titre c'est « Collision de deux mondes et la foi d'une maman ». On va voir une maman qui met sa foi en action et nous apprend quelque chose d'important. Une chose que il faut souligner, il y a beaucoup de belles choses à propos de la maternité, mais le rôle de maman, c'est souvent difficile. Alors, est-ce que je suis placé pour en parler? Pas vraiment, parce que je suis pas maman, mais je le sais. Et les problèmes rencontrés par les mamans, ce que je vois, ce que vous me dites, ça peut porter même des fois à des situations d'humiliation et à une recherche désespérée pour des solutions à des problèmes que nous apportent nos enfants. Je voudrais vous raconter l'histoire qu'une amie à moi qui est maman m'a racontée. Quand elle avait des très jeunes enfants. En fait, elle avait deux garçons jumeaux et ils étaient tout petits. Et un jour, elle les a amenés au supermarché. Et en faisant son épicerie, elle les a placés dans le panier d'épicerie sur le banc, là, tu sais, où l'enfant peut faire face aux parents qui poussent. Mais là, il y en avait deux petits garçons. Et elle a fait son épicerie. Ils étaient dissipés. Ils étaient impatients. Ils n'étaient pas contents. Et elle attendait avec eux dans la file à la caisse. Ils sont devenus encore plus turbulents. Ils pleuraient, ils criaient, ils se disputaient, ils se plaignaient de leur situation et de leur maman. C'était pas drôle pour elle. Et à un moment donné, il y a un vieux monsieur qui était dans la file, qui se retourne, qui vient vers elle et qui lui dit « Bon sang, madame, vous pouvez pas contrôler vos enfants. Si vous saviez comment les élever comme dans notre temps à nous autres, ils seraient pas comme ça. » C'est une vraie histoire, là. Triste, désespérée, blessée. Elle a retenu ses larmes pour payer son épicerie, mais quand elle avait fini, elle s'est effondrée en pleurs. Et une dame est venue vers elle pour la consoler. Elle lui a dit, « Madame, ne vous en faites pas. C'est normal, ce sont de jeunes enfants. Il y a juste des gens qui ne savent pas c'est quoi être maman. Il y a des gens aussi qui oublient qu'est-ce que c'est que d'élever de jeunes enfants. Vous êtes sûrement une bonne maman. » Et elle était une très bonne maman. Aujourd'hui, ces deux garçons sont des hommes épanouis et responsables. Mais ce jour-là, elle avait peur. Elle se disait, sûrement que je suis une mauvaise maman. Peut-être que je suis dans les patates. Je suis dans le mauvais chemin. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et puis, évidemment, il y a cette humiliation d'avoir reçu des remontrances publiques comme ça. Curieusement, dans des situations comme ça, l'humiliation, cette angoisse qu'on peut vivre peut préparer nos cœurs pour recevoir une parole d'espérance. Et elle l'a reçue, puis elle s'en est souvenue, et c'est pour ça qu'elle m'a raconté l'histoire. Et dans l'Évangile, Jésus va rencontrer du monde comme ça, du monde qui vive l'humiliation, qui vive la détresse, qui vive la peur de la catastrophe dans les choses importantes de leur vie. Et ils sont prêts pour recevoir une parole de lui qui va les transformer, qui va les faire entrer dans son royaume d'espérance. Alors, lisons une telle histoire avec une maman, justement. Mais prions encore une fois. Seigneur éternel, on veut te rencontrer, Jésus, à travers ta parole ce matin. Parle-nous. Merci pour cette maman. Merci pour comment toi tu étais auprès de toutes sortes de personnes et auprès des mamans. Et merci pour comment ce texte aussi peut me préparer pour venir à ta table tout à l'heure avec un cœur plein de reconnaissance et une attitude qui est bonne par rapport à toi et à moi-même. Amen. Alors, voici l'histoire. Donc, c'est dans Marc, chapitre 7, et on va lire à partir du verset 24. Donc, le contexte, Jésus est dans le ministère intense en Galilée avec ses disciples. Et Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Ça, c'est au Liban. Est-ce que j'ai raison, ça? Alors, oui, hein? C'est dans le pays d'à côté. Il est allé dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syro-phénicienne et elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Oui, Seigneur, répondit la femme, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, tu peux t'en aller, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle entra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Amen. Amen. Quelle histoire! Il y a dans cette histoire la collision de deux mondes, le monde de Jésus, le monde de cette femme, et une conversation un peu bizarre entre les deux. Mais il en sort, à cause de la foi de cette femme, il en sort un pont qui est jeté entre les deux mondes, le monde de Jésus, le monde de cette femme, et surtout un dénouement merveilleux. Prenons le temps de parler de ces deux mondes différents et ensuite le pont entre ces deux mondes. Mais peut-être avant, je vous donne un peu le résumé de la leçon qu'on va apprendre de cette maman ce matin. Voilà comment j'ai résumé ce que moi j'ai appris ou ce que le Seigneur m'a montré à travers l'étude de ce texte. Quand tu sens approcher la catastrophe, le désespoir ou l'humiliation, ne te disqualifie pas de la grâce de Dieu. Quand tu sens approcher la catastrophe, le désespoir ou l'humiliation, ne te disqualifie pas de la grâce de Dieu. Les humiliations, soit désespoir, soit catastrophe, frappées n'importe où, pas disqualifiées, tête ou en bas, favait bon Dieu. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que quelqu'un a compris? Bon. Alors, dans cette rencontre, il y a une collision de deux mondes. Alors, d'abord, le monde de Jésus. Je vous parle de ça parce que le passage est célèbre, parce que les gens vont dire, comment ça Jésus répond il est bête comme ça avec cette pauvre maman. Il paraît méchant. C'est surprenant de sa part, avec une inconnue qui vient vers lui pour de l'aide. On peut dire que Jésus vit cette collision avec cette femme et il s'exprime d'une manière honnête et directe. Voici des choses importantes qu'on pourrait dire concernant là d'où Jésus vient, physiquement puis dans son cœur. Quand il dit, premièrement, quand il dit à la femme, « Laisse d'abord les enfants manger », alors le mot « d'abord », c'est un mot important dans la stratégie de Dieu. Parce qu'il y a une première alliance, puis ensuite une deuxième alliance. Il y a comme un d'abord, puis un après. C'est très important. Et Jésus a reçu de son Père, dans la prière, une stratégie où il doit aller d'abord vers les enfants d'Israël. Et c'est la préparation pour ensuite aller vers les non-juifs. Et c'est ce qu'il a enseigné à ses disciples. À un moment donné, il leur dit, « Je vous envoie deux par deux dans les contrées de Galilée. N'allez pas vers les non-juifs. Concentrez-vous à cette étape-ci sur les brebis perdues d'Israël. » On voit toujours qu'il est sensible aux marginaux. Et quand un païen va venir vers lui, il va être touché de compassion, mais voilà sa stratégie. Les Juifs d'abord. On voit que dans la deuxième étape, après la résurrection, il va dire aux disciples, « Allez dans toutes les nations. Je vous donne une force. » Et en commençant en Judée, ensuite la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, aller vers tous les peuples. Et même nous, qui avons le mandat de témoigner de l'Évangile dans nos vies, on continue le travail. Les instructions qu'on reçoit dans, par exemple, la lettre de Paul aux Romains, mais ce n'est pas une instruction, c'est plutôt un encouragement. Il dit, l'Évangile que vous avez entre vos mains, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est merveilleux, il faut en profiter, il faut le partager, cet Évangile. Mais il ajoute, pour le juif d'abord, ensuite pour le non-juif. Donc, même dans nos vies à nous, si Dieu met un juif sur ton chemin, et oublie pas, l'Évangile est pour lui aussi, puis même d'abord. C'est la manière que Dieu a stratégisé les choses. Ensuite, un autre aspect du monde de Jésus, c'est que son ministère était fou. Sa vie était intense. On voit dans cette partie de l'Évangile, lui et ses disciples sont hyper occupés et des fois pas mal fatigués. Et il y a même un verset dans Marc 5, 30, un petit peu avant l'histoire qu'on vient de lire, où Jésus dit à ses disciples, c'est pas Marc 5, 30, c'est un autre verset, je n'ai pas la référence, mais il leur dit, « Allons nous reposer. Vous êtes fatigués, on est entouré de la foule, on ne peut même pas manger. Allons quelque part pour nous reposer. » Puis on va parler, on va débriefer, on va faire un retour sur ce que vous avez vécu et je vais vous enseigner et ainsi de suite. Dans Marc 5, 30, Jésus opère une guérison dans ce ministère fou où les foules viennent à lui. Le problème, c'est que tout le monde savait qu'il guérissait les malades et chassait les démons. Alors, c'est devenu une mania dans le public et on amenait de plus en plus. À un moment donné, il y a une femme qui le touche, il la guérit et Jésus se retourne et dit, « J'ai senti une force sortir de mon corps. Qui m'a touché? » c'était cette femme qui a été guérie. Donc, ça nous indique que, certainement, Jésus, quand il guérissait comme ça, même si c'était Dieu qui guérissait, mais il y avait une fatigue physique qu'il pouvait vivre. Il était humain, après tout. Donc, il était comme toi et moi, il devait gérer l'épuisement, la fatigue du ministère non-stop. Et des fois, il devait dire non. Ce qui l'amenait à faire attention à deux choses, c'est mon prochain point. Donc, il fallait qu'il fasse attention à la folie des guérisons, la mania des guérisons. Donc, la mania, comme on dit, le Beatlemania, un groupe rock que tout le monde en parle et puis on veut absolument les voir. On appelle ça une mania. C'est un mot anglais, mais on a déjà parlé de la Trudeau-mania. C'était pas pour Justin Trudeau, c'était pour son père. Mais il y a une époque où vraiment les Canadiens étaient complètement en amour avec le père de Justin Trudeau. On appelait ça Trudeau-mania. Et ici, c'est le Jésus-mania, mais pour de mauvaises raisons. C'est à cause des guérisons et des exorcismes. Jésus, on voit qu'il fait attention à ça. Il va des fois dire à ses disciples, il faut qu'on sorte de ce village, il y a trop de guérisons mania, allons ailleurs, parce que moi, je veux guérir, j'ai compassion, mais c'est pour amener le message de la foi et de la repentance pour que les gens entrent dans le royaume de Dieu. Et l'autre chose, Jésus faisait attention, importance de la solitude et de la prière. Lui, on le voit quand il est fatigué, mais même quand il n'est pas fatigué, il s'isole pour prier. Et il recevait des lumières divines de son Père céleste qui lui donnaient le nouveau pas à faire dans son ministère. En passant, c'est comme ça que toi, tu dois vivre aussi. On est en train de lire un livre en équipe qui est sur la vie du disciple de Christ. Et puis, on parle du repos de la chrétienne ou du chrétien. Et ça dit, un vrai disciple de Christ doit travailler à partir de son repos et pas se reposer de son travail. Alors, il ne faut pas que ta journée off, que tu as tellement... Et je sais que peut-être tu vis presque un esclavage dans ton travail à cause juste des conditions que ton patron met sur toi. La manière que Jésus vivait, c'est pas qu'il était tellement épuisé qu'il devait passer une journée dans son lit à récupérer. En tout cas, le but, c'était plutôt... Il se reposait pour recevoir des instructions de son Papa Céleste dans la prière. Et après ça, il revenait au travail avec des nouvelles lumières. Voici ce qu'il nous dit à nous. C'est notre vie maintenant dont il parle. Je suis la vigne et vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, ma sœur, engage-toi encore cette semaine ou à nouveau à prendre ce temps pour t'isoler, prier, lire la parole de Dieu, écouter et lui demander, Jésus, tu vois les problèmes que j'ai. As-tu une lumière à me donner? Est-ce que ton Saint-Esprit pourrait me souffler un pas que je pourrais faire? On continue par rapport au monde de Jésus. Je sais que c'est long, mais c'est vraiment important pour comprendre ce qui se passe ici. C'est pas grave. Jésus a grandi dans un monde où les Juifs côtoyaient les non-Juifs et les non-Juifs côtoyaient les Juifs. Ça, c'est une division religieuse. Et la réalité, Et ça existe encore aujourd'hui. Les Juifs voient les non-Juifs comme impurs. Ça veut dire que dans leur vie religieuse, dans leur rituel de servir Dieu, ils doivent garder une distance pour pas devenir impurs et que leur service de Dieu, en tout cas dans leur esprit, devienne désagréable à Dieu. Alors, ils doivent maintenir cette séparation. Et donc, en Galilée, il y avait une minorité de Juifs, mais il y avait des non-Juifs avec eux. Et ils savaient ça. C'est-à-dire, quelqu'un comme Jésus, qui était charpentier, travaillait sûrement avec des non-Juifs. Et j'imagine, avec son père, ils étaient charpentiers ensemble. J'imagine que s'ils allaient sur un chantier, il y avait des non-Juifs, ils étaient toujours dans l'Ancienne Alliance avant que Jésus commence sa nouveauté de la Nouvelle Alliance. Et là, tout a changé, mais ils devaient certainement le dire, « Je n'ai pas le droit de manger mon lunch avec toi. » J'utilise des mots modernes, mais on doit manger entre nous, rester séparés. Alors, c'est un monde où même les non-juifs savaient que les juifs les voyaient comme impurs. Et peut-être que c'était insultant, mais les gens s'habituaient. Comme dans Montréal aujourd'hui, on s'habitue. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Ça va expliquer un peu la conversation qu'on va voir avec la dame, la maman, mais aussi ça explique que probablement, quand Jésus quitte la Galilée avec ses disciples, parce qu'on apprend ailleurs qu'il était avec ses disciples, il n'était pas tout seul à Tyr, c'était probablement pour s'isoler secrètement avec les disciples dans une maison pour faire une pause, pour se reposer, pour prier, pour enseigner. Lui, il voulait enseigner ses disciples. Et puis après ça, retourner en Galilée dans le feu de l'action, parce que leur ministère, c'était parmi les Juifs. Oui. On va y arriver. Oui. Jésus est en train de transformer cela, si on voit toute l'histoire. Mais il est né dans un monde où ces séparations étaient là. Et avant qu'il commence son ministère, peut-être qu'il ne l'approuvait pas, parce qu'il savait ce qui s'en venait, mais il vivait là-dedans. Il vivait là-dedans et il savait que tout le monde vivait là-dedans. Alors, on peut comprendre un peu plus maintenant le contenu surprenant des propos de Jésus. Il a une stratégie où il doit se limiter en ce moment aux Juifs et une discipline de vie qui fait qu'ils ont, lui et ses disciples ont besoin de ce temps secret, ce temps de retraite. Et tout cela commence à être contrarié par cette maman qui vient interrompre leur retraite. Est-ce que vous pensez que Jésus était contrarié? Oui et non. Non et oui. Moi, j'aimerais vous raconter une histoire incroyable que j'ai entendue avec quelques autres à la conférence nationale l'été passé à Toronto. Mélodie était là, peut-être d'autres aussi. Bien, Lilette et Justin Robert également. Donc, c'était un conférencier qui venait d'Asie, un leader d'une grande organisation d'évangélisation, formation de disciples, implantation d'églises en Asie et avec un gros impact dans des pays comme l'Inde. C'est extraordinaire ce que cet organisme fait. Et cet homme, son prénom c'est Jossi, il est aujourd'hui à la tête de cette grande organisation qui fait une différence pour le royaume de Dieu. Mais savez-vous comment son ministère a commencé? Il nous a raconté ceci. Il était quelque part en Asie du Sud avec sa femme depuis quelques jours dans son voyage de noces. Et alors, Kai et Zosha, tenez-vous bien. Alors, évidemment, c'était des chrétiens engagés. Ils se reposaient de leurs activités, de leur travail. Ils étaient dans un lieu isolé, mais d'une manière inusitée, puis je ne me souviens pas comment c'est arrivé, ils sont entrés en contact avec un enfant de la rue qui mendiait. Il y en a beaucoup en Asie. Et de fil en aiguille, et je ne me souviens pas des détails non plus, lui et sa femme, qui sont en voyage de noces, ont accepté de devenir les parents adoptifs de ce petit enfant. Et ils ont passé les 3 semaines de leur voyage de noces avec cet enfant abandonné. C'est incroyable. Alors, c'est à partir de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont appris, de ce que ça a amené dans leur vie, que leur nouvelle organisation s'est développée. Et ils ont, en tout cas, je n'irai pas dans les détails, mais on peut dire, en rétrospective, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Et wow, heureusement qu'ils ont obéi à Dieu, parce que maintenant, beaucoup d'âmes sont en train de venir à Christ. Et c'est vrai, et on se réjouit. Mais on peut imaginer les conversations dures, inconfortables, directes, qui se sont passées entre les deux conjoints, entre les deux en voyage de noces, et peut-être même à 3 avec cet enfant, avant que les grandes décisions soient prises. C'est vrai qu'on a un Dieu extraordinaire. Mais des fois, il vient nous bousculer terriblement. Est-ce que je suis ouvert à l'écouter? Moi, je pense que Jésus, dans cette situation où il répond d'une drôle de manière, on voit au bout du compte, il est ouvert au bousculement que Dieu amène ici par cette maman. Et c'est à nous aussi de réfléchir par rapport à nous-mêmes. Maintenant, Kai et Zosha, si vous revenez avec une 3e personne de votre voyage de noces, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Parlons du monde de la femme, de la maman. Alors, on apprend que c'est une syro-phénicienne. Aujourd'hui, on dirait une syro-libanaise, parce que les Syriens puis les Libanais, c'est un peu le même peuple. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, ça, là. Oui, les syro-phéniciens, c'est sa race, son ethnie, et on apprend qu'elle est non-juive. Donc, elle habite dans le pays d'à côté, de la Galilée. Elle est dans la majorité des non-juifs, mais dans ce pays-là, il y a quand même une minorité de Juifs. Donc, elle aussi semble connaître cette idée que les Juifs voient les non-Juifs comme impurs. Et quand Jésus parle de petits chiens, ça a cliqué dans sa tête. Sûrement qu'elle a prié les divinités de sa famille pour le bien de son enfant. Et j'imagine que ça n'a pas fonctionné. Elle a été découragée par ce que sa religion polythéiste, païenne, lui offrait. On apprend aussi d'elle, c'est une maman. Alors, écoutez-moi, malheureusement, elle est la maman d'une fille qui ne va pas bien. Un enfant malade peut-être dans le pire des modes, dans la pire des façons. Une fille habitée par un esprit mauvais. C'est son comportement qui est pris par le contrôle d'un être méchant, un être maléfique qui lui veut du mal, qui veut faire du mal, qui veut l'amener à l'autodestruction. Je parle de la petite fille. Et sa maman s'occupe de cet enfant jour après jour et ne trouve pas la solution. On a parlé tantôt d'une maman qui est sortie au supermarché avec deux jumeaux turbulents. Mais ils n'étaient pas possédés de démons. C'est juste qu'ils avaient 2 ans. Mais pouvez-vous imaginer ce qui se passait lorsque cette maman-là amenait sa fille au marché de Tyr? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je me suis posé la question, et je pose cette question avec vous. Est-ce que cette petite fille renversait les tables de fruits? Est-ce qu'elle crachait sur les légumes? Est-ce qu'elle faisait des crises violentes en criant des obscénités que les enfants ne devraient pas connaître? Est-ce qu'elle attaquait physiquement les autres enfants qu'elle voyait? Quelle sorte de remarques est-ce que cette maman recevait dans la foule? Ou même des membres de sa famille. Quelle sorte de regard est-ce qu'elle devait supporter jour après jour? Puis surtout, quel niveau de peur de la catastrophe dans la vie de sa fille est-ce que cette maman vivait intérieurement? Mais apparemment, le Dieu d'amour, donc le Dieu des Juifs, mais qui avait un plan pour les non-Juifs, a fait arriver aux oreilles de cette maman deux nouvelles. Alors, la première, c'est comme avant, elle a reçu sûrement la nouvelle, « Hey, en Galilée, là, de l'autre côté de la frontière, il y a un guérisseur pour les Juifs. C'est pas pour nous, mais en tout cas, cette population-là, il est en train de guérir tous les malades. Il est en train de chasser les démons. Et, wow, c'est vraiment une bénédiction pour ce peuple-là. » Puis une deuxième nouvelle qui vient à son oreille, puis ça, c'est dans l'histoire d'aujourd'hui. « Hey, Jésus, là, le guérisseur, il est arrivé dans notre ville. Il est à Tyr maintenant. » Et il est dans une maison privée, mais voici l'adresse. Il est là. On l'a vu. Alors, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe dans le cœur de cette femme. Elle a la foi. Elle concocte un plan d'action. Elle se dit certainement que le Dieu, je ne sais pas qui il est, c'est peut-être le Dieu des Juifs, mais certainement, il va avoir pitié de moi. Il va me donner une opportunité pour recevoir la bénédiction que j'ai vraiment besoin. Et surtout ma fille. Dans sa vie, frappée par la catastrophe, le désespoir et l'humiliation, la maman décide de ne pas se disqualifier de la grâce de Dieu, mais de croire et de courir vers Jésus. Donc, je crois qu'elle aurait pu, si elle était complètement découragée, elle aurait pu dire, « Ah, je vais laisser faire. C'est fini pour moi de toute façon. » Non. Non. Elle a dit, « Je vais tenter le tout pour le tout. » Elle n'était pas désespérée, mais elle a agi avec la fureur de la... Il y a un mot en anglais, « desperation ». Et c'est comme, c'est juste avant le désespoir, c'est que tu te dis, je vais tout faire avant de tomber dans le désespoir. Et là, tu fais un effort incroyable. Et elle est là, alors j'invente un mot, au lieu d'être dans le désespoir, elle décide d'agir dans la désespération. Et elle court vers Jésus. La collision maintenant. Jésus rencontre cette femme qui entre dans cette maison où il est et interrompt la retraite. Il voit que cette maman, elle a du culot. Elle est persistante. Elle exprime de la confiance en lui et en Dieu. Son amour maternel la rend désespérée d'amour, comme je viens de dire. Elle est complètement proactive. Et elle n'a pas peur de s'humilier. Elle se jette aux pieds de Jésus. Et même si elle savait peut-être que toucher les pieds de Jésus, c'était considéré impur par un juif, j'ose penser qu'elle le fait pareil. Parce qu'elle se dit, il faut que je tente le tout pour le tout. C'est ma dernière chance. Et elle se met un peu comme un petit chien sous la table qui attend que Jésus lui jette des morceaux de nourriture. Puis c'est là qu'elle va être bénie. Vous savez, il y a une différence entre l'humiliation et l'humilité. Quelqu'un qui vit intérieurement une humiliation, c'est que c'est son orgueil, son ego qui est blessé dans une situation où il ne reçoit pas ce qu'il pense qu'il mérite. Je plaide coupable, ça m'est déjà arrivé. Mais quand tu sens une humiliation, c'est d'habitude à cause de ton orgueil. Et c'est mauvais parce que ce sentiment d'humiliation, tu peux te braquer, tu peux abandonner ton projet. En revanche, une personne humble ne va pas se laisser humilier. Il va persévérer dans son projet, peu importe les revers, peu importe s'il n'est pas traité à sa juste valeur. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui êtes des immigrants première génération, vous apprenez cette leçon. Ici, au Canada, il y a des situations humiliantes parce que vous connaissez votre vraie valeur, mais là, vous entrez dans un nouveau contexte où on ne connaît pas qui vous êtes. Et c'est en apprenant l'humilité que vous persévérez. Et tranquillement, avec persévérance, les portes vont s'ouvrir pour vous. Ben, c'est ça, notre prière. Alors, soyez humbles. Soyez humbles. Apprenons l'humilité. Parce qu'on ne peut pas humilier une personne humble. Amen? OK. Et cette femme était humble. Elle était rendue à ce point-là. Jésus, je ne sais pas si tu es un juif comme les autres juifs, mais peut-être que tu me vois comme un petit chien, mais j'accepte ce rôle. Jette-moi de la grâce. Je la prends. Je vais la prendre, cette grâce. Et j'oserais penser, même si le texte ne le dit pas, que Jésus voyait dans cette femme une intelligence spirituelle. Parce que la manière qu'il lui répond, c'est quand même compliqué ce qu'il lui dit. Il lui parle de la stratégie, les Juifs d'abord, et donc c'est pas le bon moment, et ainsi de suite. Mais c'est une inconnue et une païenne. Pourquoi il lui parle de ces choses-là? Et il va voir qu'elle comprend. Je pense qu'il teste son intelligence spirituelle et sa foi, et il aime sa réponse parce qu'elle répond en montrant qu'elle a vraiment une vision très élevée de l'amour de Dieu. Et Jésus est venu pour ça, pour nous dire, arrêtez de penser que Dieu il est comme vous. Arrêtez de penser que Dieu il est mesquin, puis il se venge, puis si tu fais une erreur, il va t'aimer moins. L'amour de Dieu, Dieu il a un amour qui est immense et qui dépasse les règlements que les humains mettent parce qu'ils pensent que l'amour de Dieu est limité. La manière qu'elle répond, c'est Je sais que je suis en train de briser tous les protocoles. Peut-être que je suis en train de te rendre impur. Mais je me mets comme un petit chien, comme un caniche sous la table. Je le sais que ton Dieu, il va me donner des miettes qui vont être suffisantes pour guérir ma fille. Est-ce que c'est pas beau, ça? Wow. Oui. Ma sœur, mon frère, quelle est ta vision de Dieu? Est-ce que tu as une vision de son amour qui est digne de qui il est vraiment? Il est amour. L'amour que moi je peux avoir dérive de qui il est. Dans tes prières, fais plaisir à Dieu. Exprime-lui ta plus haute estime de qui il est. Ça, c'est le moyen de connecter avec son cœur. Comme cette femme, Jésus a dit, « Wow! Toi, tu as la foi, tu as la confiance dans l'amour de Dieu. Va, tu vas trouver ta fille libérée de son démon. » Alors, concluons. Quand tu sens approcher la catastrophe, le désespoir ou l'humiliation, ne te disqualifie pas de la grâce de Dieu, mais va vers Jésus. Jette-toi à ses pieds. On va, dans quelques instants, nous approcher de la table où Jésus lui-même nous invite. C'est son repas. Il veut que tu manges. Ne te disqualifie pas de la grâce. Peut-être que tu te sens pécheresse ou pécheur. Rends-toi toute petite. Dis-lui, je suis comme un petit caniche qui vient à ta table et donne-moi à manger. Et il te donnera à manger. L'apôtre Pierre nous dit ceci, et je vais terminer avec cette parole qui, je pense, va bien avec notre thème. Pierre avait complètement, il s'était disqualifié, on pourrait dire, en reniant Jésus. Lui qui avait dit, « Je ne vais jamais te renier, moi. » Puis il l'a fait. Et Jésus l'a ramené dans son bercail et l'a relevé. Et Pierre nous dit ceci, il parle d'expérience, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. » Venez tous à la table, donne ta vie à Christ et dis-lui, « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton salut, j'ai besoin de ta guérison, j'ai besoin de ton pardon. » Et tu peux me donner la force de vivre comme tu veux que je vive. Je vous invite à prier avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait aller en bas, juste dire, peut-être la grande sœur ou le... C'est fait? Merveilleux. Prions. Merci, Jésus, d'être venu. Tes disciples ont simplement observé ces choses extraordinaires et les ont écrites dans des livres que nous lisons aujourd'hui. Et elles transforment nos vies. Seigneur, alors que je m'approche de ta table maintenant, donne-moi de me mettre bas devant ta face, parce que toi, tu veux me pardonner, m'accueillir, me relever au moment voulu. Merci pour cette femme. Merci parce que nous ne connaissons pas la suite. Peut-être qu'elle et sa fille ont pu, peut-être 10 ou 20 ans plus tard, se joindre à une église, à Tyr, et à participer à ce même repas et te dire merci, ô Jésus, merci d'être venu, merci d'avoir comme brisé les règles de la stratégie pour nous faire grâce. Ô Jésus, tu es merveilleux. Nous te remercions en ton nom. Amen.